Europe 1,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour à tous.
Très heureuse de vous retrouver dans Bien fait pour vous, votre émission qui embellit votre vie quotidienne. Et aujourd'hui Mélanie, on va parler de quoi dans notre émission?
Alors, on va varier les plaisirs comme tous les jours. Vous le savez, à 11h45, on retrouvera les meilleurs conseils des bienfaiteurs d'Europe 1 avec Sophie Braffman, notre chroniqueuse 2.0. On va vous conseiller des applis qui ne vous seront pas forcément utiles pour le coup, mais qui vont vraiment vous faire rire, et ça c'est déjà pas si mal pour une matinée pleine de gaieté. Et puis après, avec Anouk Garnier, notre coach sportive, on va voir comment renforcer notre dos, le muscler. Le mal de dos, c'est le mal du siècle, mais avec le programme qu'Anouk nous a concocté, on va prévenir pas mal de problèmes. Avant ça, Julien, on va démarrer par quoi?
Eh bien, notre question du jour est la suivante: la solitude peut-elle nous rendre heureux? Peut-être qu'elle vous semble un peu gonflée, cette question d'ailleurs. La solitude, on a plutôt tendance à la voir comme un fléau. D'ailleurs, aujourd'hui c'est la journée mondiale des solitude. Elle toucherait environ un Français sur trois. Mais nous, on va essayer de l'analyser sous tous les angles ce matin, cette solitude. Celle que l'on recherche et qui nous fait parfois du bien, et celle qui nous apaise. Et bien sûr, on verra quelles sont les solutions pour sortir de la solitude, de l'isolement, quand tout ça se fait trop pesant pour nous. Nous en parlerons notamment avec la psychanalyste Virginie Méglé, qui sera en studio avec nous. Et bien voilà, bien fait pour vous. C'est parti Mélanie.
C'est parti.
Europe 1.
Vous êtes sur Europe 1, nous sommes avec vous jusqu'à midi en direct ce matin. On ne va pas s'isoler, ni vous isoler, bien au contraire, on va étudier la solitude, les solitudes ensemble. Et pour commencer, on va demander son avis à notre habitué du One Man Show. Bonjour Clément Lanoux.
Bonjour.
Bon, j'imagine qu'un artiste comme vous, des moments de solitude sur scène, vous en avez connu quand
sur
même.
Sur scène et hors scène, évidemment. C'est le One Man Show, c'est l'exemple type. C'est-à-dire qu'on est tout seul dans sa loge, puis d'un seul coup on arrive, on est projeté au milieu de plein de gens, on se sent très aimé, puis après on est re-tout seul dans sa loge, donc c'est bizarre. On va parler de la solitude aujourd'hui, donc je vais vous demander de tous quitter le studio.
Oui. Okay.
Non, vous pouvez rester, vous pouvez rester, vous pouvez rester, car on est bien avec les autres, et il faut être d'abord bien avec les autres pour être bien avec soi-même. C'est bien connu, certains vont cultiver ce rapport aux autres, d'autres vont le fuir, mais que vous soyez team tout seul ou team avec plein de monde, on est tous confrontés à quelque chose, et c'est ça que j'aimerais aborder, puisque je sais que vous n'en parlerez pas, c'est les moments de solitude. Les moments de solitude, vous savez, ces petites tranches de vie qui durent parfois quelques minutes, quelques secondes, et qui fait qu'on est parfois très très gêné. J'ai pris quelques exemples de moments de solitude que j'ai moi-même vécu, ou que des amis ont vécu, peut-être que vous l'avez vécu, vous me direz. La première chose, c'est quand on félicite quelqu'un en se disant « Oh, félicitations, je vois qu'il y a un petit ventre rond et que la personne n'est pas enceinte. »
Voilà.
Celle-ci, elle est terrible.
Moment de solitude.
Petit moment de solitude, quand on croise quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, puis qu'en parlant avec lui, on se dit « Mais j'ai l'impression que c'est pas lui. » Et qu'on ne reconnaît pas la personne. Quand à la pharmacie, on a des choses très personnelles à demander et que la distance de sécurité n'est pas respectée et que la pharmacienne parle très fort, on se retourne en disant « Non, non, c'est pour un ami, c'est pour un ami, c'est pas pour moi. » Quand on est en couple, que tout va bien et que là, c'est peut-être un lapsus, je ne sais pas, un acte manqué en tout cas, qu'on appelle sa chérie par un autre prénom. Voilà.
Oui.
Petit moment de solitude. Autre moment de solitude, alors ça on l'a connu très jeune, vous savez, quand on regarde un film, que deux personnes s'embrassent et qu'on est avec ses parents et que la scène devient de plus en plus chaude.
C'est ça.
Et là, je vais aller chercher un petit truc au frigo. Quand on critique quelqu'un et puis qu'on se dit « Ah, je viens de l'appeler de ma poche. Mince, qu'est-ce que... »
Moment de solitude.
Je vais le rappeler quand même. Donc voilà. Évidemment, on parlait du théâtre. Quand on est dans le public et qu'on commence à se dire « Ouais !» et qu'on se lève...
Et
mais
c'est
tout
pas
seul
fini.
Et que les autres ne... voilà, ou qu'on applaudit trop tôt aussi à la fin d'une chanson, ça peut marcher. Quand on va voir quelqu'un et qu'on lui dit ah ben il est où Fred, ah ça s'est terminé il y a 15 jours, d'accord, donc t'es venu tout seul, ok, il n'y a pas de problème. Quand on marche doucement, que la baie vitrée est très bien nettoyée et qu'on arrive et qu'on se la prend, ça m'est arrivé aussi. Quand on arrive à un mariage et qu'une personne a la même robe exactement,
pénible,
ça peut être
pénible,
agaçant.
Ouais.
Quand tu commences un nouveau boulot, que ton patron se présente et s'appelle Bob et que tu dis ah mince, c'est le nom de mon chien, et à un moment ça va se savoir. Quand t'envoies un texto pour dire « Ah, le mariage, t'es pas vraiment foufou, quoi, c'était pas génial et tout. » Non, un ami pour le raconter, mais qu'effectivement, acte manqué, on envoie à la mariée ce message.
Oh, mon Dieu.
Et puis, j'aimerais terminer avec un vrai moment qui s'est passé ce week-end, puisque ça s'est passé dans l'équipe. On a une personne qui travaille avec nous, je le nommerai pas, parce que c'est pas cool pour Benjamin. Qui nous a raconté ça en antenne, qui m'a autorisé, je dis, qui est allé chez le barbier ce week-end.
Oh. Oh là là.
Et puis, c'était pas le même coiffeur que d'habitude, donc il lui a dit « Bah écoutez, j'aimerais bien comme d'habitude, je vais vous montrer la photo de la dernière fois. » Et puis, a ouvert son téléphone et puis il se trouve que dans la première photo qu'il a ouvert, c'était bien une photo de lui, mais une photo très personnelle de lui. trop personnelle de lui.
Une partie de lui.
Une partie de lui. Une vraie.
Une autre barbe. Une partie de lui.
Bah, l'enfer, c'est les 30 minutes qu'il a passé après à.
Avec le couteau sous la gorge en plus.
Voilà, exactement. Voilà. Je vous laisse là-dessus.
Grand moment de solitude. Merci beaucoup Clément Lanoux pour cette chronique. Il est temps maintenant d'accueillir notre invité sur Europe 1, Virginie Méglet. Bonjour. Alors, vous êtes psychanalyste et vous êtes l'auteur du livre « Guérir de la peur de l'abandon » et c'est paru aux éditions Erol. Virginie, on associe souvent la solitude à la tristesse, à l'isolement, bref à ça.
Partout elle me fait escorte, elle est revenue, la voilà. La renifleuse des amours mortes, elle m'a suivi pas à pas. La garce, que le diable l'emporte, elle est revenue, elle est là.
Et oui. Virginie, comme dans la chanson de Barbara, dont on vient d'entendre quelques notes, c'est systématiquement triste, la solitude dans notre esprit. Pourquoi ?
Disons que c'est, en fait, c'est le sens, il y a la solitude et le sentiment de solitude. Et la tristesse, c'est là où ça va évoquer pour nous, dans notre intimité, des moments de tristesse ou de solitude sombre. Et que dans ces moments-là, on se sent effectivement un peu ce qui a été dit là, coupé du monde, en perte de lien, en perte de. Et même si ça se dure très peu de temps, c'est tellement intense que c'est comme si ça durait chaque fois une éternité.
Donc il faut bien différencier la solitude du sentiment, c'est bien ça de solitude.
Oui. Le sentiment. Sentiment de solitude, c'est presque plus un sentiment d'isolement. À un moment donné, même si on est dans le monde, même si on est parmi les autres, on se sent désespérément seul.
Moi, il y a un moment qui je trouve difficile, je sais que beaucoup le font et apprécient, mais c'est manger seul au restaurant. J'ai jamais osé, ou alors je l'ai fait en faisant semblant d'être au téléphone.
Moi, j'aime bien.
Ça vous plaît, vous, Clément?
Sans problème, j'adore être tout seul.
Mais pourquoi ça peut gêner comme ça d'être seul au restaurant? On a l'impression que si on est seul, c'est qu'on est bizarre ou qu'on va être montré du doigt parce qu'on est, isolé. Enfin, c'est bizarre.
Ben, le problème du restaurant, c'est que c'est un lieu de convivialité. Comme c'est un lieu de convivialité, on voit que les autres sont tous ensemble. Alors, peut-être qu'ils sont tous tout seuls, tous ensemble. Mais nous, on a l'impression qu'ils sont vraiment bien ensemble et donc on est renvoyé. Alors, si on n'a pas choisi là après, on peut aussi choisir, en effet, d'aller au restaurant seul pour pouvoir prendre du recul, s'écarter des autres.
Ou parce qu'on est en déplacement professionnel et que on est tout seul. Et si on veut manger, il faut bien aller quelque part.
Voilà. Mais effectivement, ça va être une question pour le coup de personnalité, de caractère et d'époque dans la vie. Parce qu'il y a des. Moi, je sais qu'aussi, j'ai pu le faire de manger seul au restaurant et aimer pouvoir regarder les autres. Si en effet, on voyage. Mais sinon, là où c'est difficile à vivre, c'est que c'est un lieu de convivialité. Mmh. C'est pour ça, tout ça. Ouais.
Et je crois aussi que la solitude peut être vécue comme un stress pour l'organisme. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a été démontré?
Disons que statistiquement, c'est pas géré. Je pourrais pas le dire, c'est pas de mon ressort. Ce que je sais simplement, c'est que la solitude, quand elle est associée à la tristesse, en effet, elle a presque valeur de micro-traumatisme. Et donc, tout traumatisme tout court perturbe le métabolisme. Et effectivement, ça crée des dysfonctionnements. D'où l'importance, dans le meilleur des cas, c'est que si on l'a vécu mal, c'est ensuite de prendre le temps de se réparer.
Alors, il y a des études scientifiques, d'ailleurs, qui ont montré que l'ingrédient principal pour être heureux, c'était les relations humaines, de qualité plutôt. Vous êtes d'accord avec ça? C'est quelque chose que vous avez pu observer dans votre patientèle, par exemple?
Disons que d'une certaine façon, les personnes qui viennent nous voir, enfin qui viennent me voir, finalement, d'une certaine façon, ils souffrent de solitude, même s'ils ne sont pas tout seuls dans leur vie. Donc, c'est le mot important dans ce que vous venez de dire là, c'est les relations de qualité.
Dire que n'importe qui va voir un psy, à un moment donné, c'est qu'il y a une solitude en lui.
Il y a une solitude en lui, oui. Il se vit pas bien dans le monde, il se vit coupé, il a envie de se. Soit il a l'impression de plus jamais pouvoir vivre bien, soit il a envie de vivre bien, mais effectivement, c'est parce que les relations avec son entourage, que ce soit un entourage familial, amoureux, professionnel, dysfonctionnent pour lui et donc il se sent seul, même entouré.
Mais il y a donc différents types de solitude. Il y a celle qui est choisie et celle qui est subie. Est-ce que quand c'est un choix, on peut considérer que c'est une bonne chose et que ce n'est pas forcément d'ailleurs douloureux?
Un choix, au contraire. Alors parce que c'est une interaction permanente. Pour être bien avec le monde, il faut être bien soi-même. Pour être bien tout seul, il faut être bien avec les autres. Il y a pas, c'est un peu l'œuf et la poule. Les deux sont bien. Donc quand c'est choisi, au contraire, ce sont des moments où on peut se ressourcer, se retrouver, être bien. Tandis que quand elle est subie, elle est vécue un peu comme une prison.
Et on va essayer de les éloigner un peu, de les séparer les barreaux de la prison ce matin. Merci à vous Virginie, on reste ensemble dans Bienfait pour vous. On s'intéresse ce matin à la solitude, aux différentes formes de solitude, qu'elle, quand elle est choisie, elle fait du bien. Mais le plus souvent, elle est sournoise, invisible et apparemment de plus en plus de Français la subissent. Alors on va mettre en avant quelques solutions pour rompre l'isolement. Et la première, c'est peut-être en restant avec nous sur Europe 1.
Europe 1, Bienfait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Je suis seul au monde, il n'y a rien à faire, je suis seul au monde.
Mais non, Corneille, tu n'es pas seul au monde. Nous sommes ici.
Tu es sur Europe 1, déjà, tu as beaucoup de chance.
Exactement, dans Bienfait pour vous, l'émission avec moi-même, donc Julia Vignali et Mélanie Gomez. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à midi pour cette émission qui vous fait du bien, même si on s'attaque ce matin à un sujet délicat et qui peut faire souffrir, la solitude, les solitudes. Et on en parle avec vous, Virginie Maiglet. Vous êtes psychanalyste et auteur du livre « Guérir de la peur de l'abandon » paru aux éditions Erol. Alors, on a beaucoup parlé de la solitude au moment de la crise sanitaire. Beaucoup de personnes, c'est vrai, étaient isolées, seules chez elles, y compris des jeunes, étudiants par exemple. Une solitude donc imposée, inattendue comme ça, est-ce que ça peut être difficile à vivre? Est-ce que, dans ces cas précis, on peut parler de certains traumatismes?
Ah mais oui, je pense que même c'est vraiment important d'oser en parler, parce que quand on est mis en difficulté, on a tendance naturellement à vouloir prendre le dessus, à faire comme si on n'avait pas mal, et alors que ça a réellement été un effet traumatique sur à peu près toutes les couches de la société. C'est que du jour au lendemain, on n'était plus en possession de nos moyens, on n'avait plus le droit de circuler de la même façon, on n'avait plus le droit de voir ses amis, de voir sa famille, et donc en le traitant aujourd'hui comme traumatisme, qu'on peut effectivement après pouvoir de nouveau vivre sa solitude. Sinon, là, actuellement, là, côté effrayant. Mmh. Hein.
Donc, c'est possible que certains jeunes ou moins jeunes, hein, ayant vécu ces confinements très très mal, très douloureusement, en aient encore des séquelles aujourd'hui, parce que bon, cet isolement forcé, ça commence à dater, mais on a l'impression que c'était hier pour certains. Ouais. Justement, cette impression que c'était hier, ce traumatisme de cet isolement, c'est peut-être un signe que ça a été vraiment très lourd psychologiquement.
Eh bien sûr, physiquement, c'est pas étonnant. On se casse une jambe, on la soigne. On prend le temps. Enfin, tout le monde ne le fera pas, mais en général, on le fait, on prend le temps de se réparer. Tandis que pour les chocs psychologiques, on ne le fait pas. Donc, la douleur continue à se faire entendre en nous. Hein. Mmh. Et donc, là où c'est hier, c'est qu'effectivement, elle n'est pas passée. Elle reste présente. Et c'est ce présent. Moi, je trouve que j'aime vraiment dire, quand je reçois des personnes, dire, ben oui, on ne peut pas faire comme si ça n'était pas arrivé. Mmh. Et au lieu de dire, oui, mais non, on ne va pas tout. Mais si, on prend le temps. C'est comme si on avait une roue crevée, hein, plutôt que de dire, oh, c'est pas grave, il faut être positif. Non, on continue d'avancer la roue. Non, non, prenons le temps de réparer la roue et puis après, on se remettra en marche.
Alors, hors crise sanitaire, c'est-à-dire en temps normal, est-ce qu'il y a un profil de gens, une tranche d'âge qui est plus à risque de souffrir d'isolement? Est-ce qu'on a des chiffres, des statistiques à ce sujet?
Alors là, pareil, en termes de statistiques, je ne pourrais pas vraiment le dire, mais en termes de pratiques et de recherches qu'on a pu faire, ce sont toutes les époques de transition. Hein, c'est effectivement, on peut penser aux adolescents et aux personnes âgées, mais pensons aussi aux bébés, aux petits-enfants, hein, qui, à un moment donné, n'ont pas encore les moyens de vivre pour assurer. Parce que la solitude, pour bien la vivre, il faut se sentir indépendant, il faut se sentir fort, autonome. Mmh. Et qu'on est en période de transition, on est en fragilité, parce qu'on n'a plus les moyens d'avant et pas encore ceux d'hier. Mmh. De demain, pardon.
Ce sont donc très souvent les jeunes, on vient de le dire, ou les personnes âgées qui souffrent de la solitude. Et pour en parler, on va justement prendre au téléphone Justine Renaudet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondatrice de la start-up Colette, qui met en relation des jeunes et des seniors pour réinventer la colocation intergénérationnelle. Alors Justine, aujourd'hui, on l'a dit au tout début de l'émission, c'est la journée mondiale des solitudes. Colette, c'est à la base un moyen pour lutter contre ce fléau, justement?
Oui, absolument. Une solitude qui est ressentie en effet par de nombreux seniors, mais comme vous le disiez, aussi par des jeunes. On y pense plutôt moins, mais les deux sont touchés. Donc nous, le but, c'est vraiment de renforcer cette solidarité entre générations.
Et c'est quoi le point de départ de cette aventure solidaire? Je crois que c'est une de vos voisines, c'est ça, qui a créé un déclic chez vous.
Absolument. Alors, on est plusieurs cofondateurs avec chacun notre histoire, mais pour ma part, j'avais depuis une dizaine d'années une voisine qui avait 70, 75 ans. Elle vivait seule et je remarquais qu'à chaque fois que j'ouvrais ma porte, elle ouvrait la sienne pour me taper la causette, quoi. Mm-hmm. Donc, au début, c'est vrai que je trouvais ça un petit peu agaçant parce que j'avais pas forcément le temps de lui parler. Et puis, rapidement, je me suis rendu compte que c'était sa seule interaction dans la journée et qu'elle était très seule, qu'elle souffrait de solitude. Elle trouvait la moindre opportunité pour me parler. Donc, ça m'a vraiment frappée à ce moment-là. Bon, je travaillais à l'époque dans une autre entreprise, donc pas trop sur le sujet, mais je m'étais jurée de revenir un jour sur le sujet de la solitude des seniors. Et c'est ce qu'on fait donc avec Colette.
Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne Colette rapidement et combien de binômes d'ailleurs vous avez déjà peut-être créé, formé depuis la création ?
Alors, c'est plus de 1000 binômes qu'on a accompagnés depuis qu'on s'est lancé milieu 2020. Donc, Colette, aujourd'hui, c'est une plateforme en ligne qui va permettre de proposer d'un côté une offre de chambre chez l'habitant senior et de l'autre côté, de permettre à des jeunes de s'inscrire, de renseigner des informations pour ensuite faire la recherche d'un logement chez l'habitant et, chemin faisant via la plateforme en ligne, réserver en ligne, finalement, la chambre. Donc, c'est... Voilà, c'est ce qu'on appelle une plateforme, un site internet qui fait vraiment matcher l'offre et la demande.
Comment, ce sont surtout les jeunes, je crois, qui cherchent à se mettre en colocation avec leurs aînés, puisque les aînés qui sont en demande, comment vous l'expliquez, les seniors, ils y trouvent quand même leur compte, j'imagine, c'est quoi les retours aujourd'hui ?
Absolument. En fait, la nuance, c'est qu'on a énormément de jeunes qui cherchent à se loger en cohabitation intergénérationnelle parce que c'est un bon plan aussi pour se loger rapidement et facilement. C'est aussi abordable. Donc, ils sont très, très nombreux à chercher à se loger par ce biais. Mmh. Du côté des seniors, en fait, comme c'est vraiment un changement de vie, un mode d'usage différent, il s'agit quand même d'accueillir quelqu'un qu'on ne connaît pas sous son toit. Donc, il y a un cap à passer.
Bien sûr.
Je dirais qu'ils sont désireux de le faire, mais ça demande pas mal de pédagogie, de réassurance aussi par rapport à ce mode de logement. Donc les deux ont la volonté de le faire, mais c'est juste que voilà, pour un senior, c'est vraiment un cap à franchir.
Juste rapidement, comment, pour terminer, comment on vous trouve, comment on se met en relation avec vous justement pour faire appel à vos services ?
Alors tout simplement, tapez dans votre barre de recherche colette.club et vous nous trouverez et on s'appellera pour en parler.
Oui, bien, merci beaucoup Justine Renaudet d'avoir répondu à nos questions sur Europe 1. Alors Virginie, je reviens à vous. Est-ce que la solitude, quand elle est durablement installée dans notre mode de vie, peut modifier notre rapport aux autres ? Est-ce qu'on peut devenir vraiment sauvage et avoir du mal à se sociabiliser par la suite ?
Disons que quand on est replié sur soi, on perd de sociabilité. Alors après, il y a le thème sauvage, moi, qui me questionne là-dessus, parce que je pense que le mauvais côté de sauvagerie, c'est quand c'est coupé du monde, que lorsqu'on devient un ermite, lorsqu'on est en soi-même, être sauvage, on pourrait dire que d'une certaine façon, pendant le Covid, on a eu besoin aussi de parce que sauvage, c'est l'acte de se sauver. Mmh. Donc, c'est revenir aussi, trouver ses ressources. Par exemple, la solitude sera moins difficile pour quelqu'un. On l'a vu par les gens qui sont mis à faire du pain, plutôt que de se sentir privé ou rationné. On fabrique quelque chose. Donc là, où, je dirais plus que sauvage, c'est le repli sur soi, c'est le côté ermite, c'est le côté dépressif qui effectivement nous coupera du monde, alors que c'est vrai que nous sommes des êtres d'appartenance et les relations sociales sont vraiment vitales, vitales, vitales.
Ben oui, c'est ça, avoir besoin des autres, c'est presque naturel chez l'être humain. Mais il y a des personnes qui souffrent parfois de solitude très profonde, même de façon juste un tout petit peu ponctuelle, qui se sentent tout de suite mises de côté dès qu'elles se retrouvent seules, même un très court instant. Comment, chez ces gens-là, comment on peut identifier ceux qui souffrent peut-être un peu de dépendance affective, en fait ?
Ben, c'est là où, quand des moments de solitude deviennent très, très douloureux, c'est que ça renvoie à un vécu très douloureux qui n'a pas été, qui n'est pas passé, comme je disais tout à l'heure, qui reste présent en soi. Donc, c'est le sentiment d'abandon. C'est que seul, au lieu de se dire on peut compter sur nos ressources, on est bien seul, tout ça.
Mais c'est juste un ressenti, parce que ces gens-là ne sont pas forcément seuls, on est d'accord. C'est pas leur réalité forcément, mais c'est celle qu'ils ont l'impression de vivre à l'intérieur.
Disons que le ressenti est une réalité. Il faut vraiment penser ça. C'est-à-dire, le sentiment d'abandon, quelqu'un qui vit, c'est qu'à un moment donné dans sa vie, il a vraiment été abandonné. Et c'est cette blessure, comme tout à l'heure, quand je parlais d'une jambe cassée, si la pète est soignée, elle continue à se faire entendre.
Et comment on peut sortir de ce cercle vicieux de la dépendance affective, alors que parfois ces gens-là sont, comme le disait Mélanie, entourés d'amour, mais...
Alors, c'est toute la difficulté de se sentir seul quand on est entouré. Mmh. Parce qu'on peut être entouré d'amour, mais l'amour aussi, c'est le bon geste au bon moment. Mmh. Donc, la personne qui aime ne comprend pas pourquoi son geste n'est pas réparateur, mais celle qui le reçoit ne le vit pas en tant que réparateur. Et c'est peut-être là que des espaces, comme nos espaces analytiques, thérapeutiques, sont nécessaires que la personne se sente vraiment entourée et que finalement, on prenne en charge ses véritables besoins. Parce que là, il y a présence et présence. Hein. Il faut vraiment une présence réparatrice. Et moi, c'est l'essentiel que je fais.
Et thérapeutique.
Et thérapeutique.
Eh bien, c'est très clair. Merci beaucoup. On va rester encore ensemble, Virginie. On va aussi aller voir les bons côtés, hein, tout de même, de la solitude. Celle que beaucoup de gens fuient, mais qui peut être bonne pour nous. Une forme d'introspection, et c'est très à la mode. Mais quels en sont les bénéfices concrets? On y revient très vite sur Europe 1. Alors, restez avec nous.
Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1 et merci si vous êtes avec nous depuis 11h. La solitude peut-elle nous rendre heureux? C'est vraiment cet angle positif de l'isolement qu'on va également s'attaquer avec vous, Virginie Méglet. Je rappelle que vous êtes psychanalyste. Alors Virginie, il y a aussi des personnes qui se sentent très seules, même quand elles sont très entourées. On en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Elles ont l'impression d'être en décalage. Elles réussissent pas à se lier réellement aux autres. À quoi c'est dû cette solitude, même quand on n'est pas seul, quoi. Ouais.
Mais là, peut-être qu'on va faire la nuance entre les deux mots de solitude et isolement. Hein, c'est qu'effectivement, elles se sentent isolées, même en compagnie. Et là, c'est presque une question, je dirais, de langage. Si on n'a pas appris un langage de l'affectivité bien rempli, si on ne se sent pas bien dans sa peau, effectivement, face à l'autre, on a l'impression de ne pas savoir lui parler ou de ne pas être entendu ou de ne pas le comprendre. Et donc, c'est ce sentiment de solitude dans le monde qui fait de l'isolement. Et la personne se sent vraiment coupée du monde, même parmi les autres.
On dit souvent qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Est-ce que ça, c'est un vrai précepte ?
Oh oui, mais je pense que c'est... Enfin, oui, non, mais c'est un peu radical. Enfin, j'ai envie de dire oui, parce qu'effectivement, c'est comprendre qu'on a besoin de vrais liens qui font passer de l'énergie vitale, qui vont passer de l'affection au sens...
Oui, si c'est pour être entouré, c'est parfois il vaut mieux être seul, non, franchement.
Parce que si on se sent... le problème aussi, c'est qu'on se sent incompris. Et là, pareil, sentir incompris, c'est comme si on ne parlait pas la même langue.
Mais on se sent seul quand on se sent incompris. Voilà. Donc la nuance, finalement, elle est dans le choix de la solitude, hein, parce que la solitude, quand elle est choisie, elle peut nous être bénéfique, elle peut même nous permettre de prendre du recul sur les choses, faire un peu d'introspection, c'est important aussi. Ça, c'est toujours positif, non ?
Mais disons qu'elle est dans le choix de la réponse. Ça dépend de la réponse qu'on va lui donner. C'est qu'effectivement, si on s'aperçoit qu'on souffre vraiment excessivement, on a vraiment tout intérêt à se demander le pourquoi, pour pouvoir arriver à bien vivre cette solitude.
Comme après une rupture amoureuse, par exemple, c'est quelque chose à conseiller de rester un peu seul ?
Oui, moi je pense qu'il vaut mieux se réparer parce que même si c'est soi-même qui avons voulu la rupture, le mot rupture est fort, c'est qu'on a perdu une partie de soi. On continue à vivre avec l'autre. Donc on va rencontrer quelqu'un comme si c'était un autre et qui lui-même se sentit. Donc il vaut mieux prendre le temps. De toute façon, cette rupture même voulue, il y a quelque chose de l'ordre du traumatisme parce que tout dépend si c'est une rupture après 6 mois ou une rupture après 20 ans, bien sûr. Hein, mais apprendre à se revivre seul. En plus, je pense que fondamentalement, c'est très réparateur et que c'est souhaitable pour tout le monde. Hein,
Est-ce que justement, on n'est peut-être pas quand même un peu conditionné à détester la solitude, à la fuir à tout prix ? Est-ce qu'on ne devrait pas parfois l'accepter ? Alors, peut-être pas qu'elle dure trop longtemps, mais voir ce qu'elle peut nous apporter.
Ben disons que en effet, là, c'est comme si elle avait mauvaise presse. Il y a quelque chose un peu de honteux. Hein, je veux dire, c'est presque le regard qui peut sur la personne solitaire qui peut lui rendre la solitude plus difficile que le fait d'être seule et bien seule. Mmh. Et je pense qu'en effet, on a vraiment intérêt. Parce qu'il y a une solitude, je dirais, presque ontologique aussi. On est seul et on meurt seul. Mmh. Enfin, voilà. Et donc, le sentiment de solitude est dur quand on était tout seul, qu'on n'avait pas les moyens pour survivre. Mais apprendre à vivre bien, c'est quand même la condition pour ensuite être bien avec d'autres.
Hein. Mmh, c'est ça. Préparez-vous d'abord. C'est ça le premier choix pour arrêter la solitude, en fait. C'est de se réparer d'abord soi-même.
Voilà. Et à ce moment-là, on se sent vraiment pour le coup augmenté. Hein. Enfin, c'est très agréable de pouvoir se dire, tiens, je marche toute seule, j'ai pas besoin de... Voilà. Et les autres sont plus des béquilles, les autres sont des
bonus.
Des bonus.
Alors la mode de la méditation, de la cohérence cardiaque, tous ces outils qui permettent de se recentrer sur soi finalement, est-ce que ça vient justement de là? Est-ce qu'on a trop tout misé longtemps sur le collectif, l'importance d'être entouré en couple, aimé, liké sur les réseaux sociaux? Moi j'ai l'impression que la mode du solo est de nouveau là.
Eh oui, c'est le besoin de prendre soin de soi. Parce qu'une question aussi, la solitude, l'intimité. Hein, c'est le bien vivre son intimité. Et si on ne prend pas de temps pour ça, on se sent... Ben là, c'est un peu comme si on ne prenait jamais le temps de dormir. On dort aussi, même si on dort, on partage le lit, on dort tout seul.
Oui, on rêve seul.
On rêve seul, voilà. Et c'est vital. Et en effet, si ça a été négligé au profit, enfin, du partage, de la collectivité, ben, je trouve qu'il y a quelque chose, disons, presque de sain, si on peut dire, dans ce retour sur soi. Soit pas coupé du monde, mais se recharger pour pouvoir mieux être ensuite en communication avec le monde.
Alors c'est un sujet qui fait réagir, on a beaucoup d'appels au 39-21, alors de gens plutôt qui se plaignent quand même de la solitude qui est lourde et qui leur pèse, mais on a également Héloïse sur Instagram qui nous a écrit et qui dit « De temps en temps, je mens à mon petit copain, je prétexte avoir un rendez-vous de travail qui s'éternise et je me fais une séance de ciné toute seule, tranquille, avec moi-même. C'est mon petit plaisir coupable, même si j'ai presque l'impression de le tromper. » Qu'est-ce que ça dit d'Héloïse?
Presque Héloïse en effet le trompe, hein, parce que la fidélité ou la loyauté n'est pas que sexuelle, mais on dit bien à quel point la solitude est encore mal vue, puisqu'elle est obligée de mentir pour pouvoir se respecter. Alors moi, ce que je lui souhaite vraiment, c'est qu'elle arrive le plus vite possible à pouvoir s'accorder
à revendiquer ces moments de solitude.
C'est l'accorder, et peut-être que son compagnon en aura besoin aussi, et quand ils seront ensemble, ils seront mieux ensemble. Mais c'est dommage un petit peu de ternir le bon moment de solitude par la culpabilité.
Et par un mensonge, et oui, c'est dommage.
Mais surtout quand on est en couple avec des enfants, c'est sûr qu'on se sent plus libre quand on est seul. Je suis sûre que Mélanie, elle rêve de se faire un ciné toute seule.
Ça peut m'arriver.
Et de rien dire à ses enfants et à son mari. C'est vrai qu'on fait ce qu'on veut quand on veut. Ça veut dire que la solitude choisie, elle est presque égoïste ou pas ?
Eh ben, disons que là encore, c'est une question de regard, ou comme de ce qu'on disait tout à l'heure, je disais de sentiment. C'est l'égoïsme est mal vu. Et je pense qu'il y a un sain égoïsme, de savoir bien s'occuper de soi. Parce que quand on sait bien s'occuper de soi, on n'est plus dans le demande, dans l'attente de l'autre. Donc effectivement, ce besoin de se ressourcer, en effet, quand on est occupé par la vie professionnelle, la vie familiale, la vie maritale et tout, je veux dire, s'il y a besoin vraiment de ces moments de solitude, et c'est vital. C'est simplement, ce sera pas... Alors, on aura peut-être besoin de s'isoler pour ça, pour pouvoir l'imposer aux autres, mais je pense que c'est vraiment pris là, qu'on respecte plus son entourage aussi.
Est-ce qu'il y a des profils de personnes qui seront naturellement plus solitaires, ceux qui ont été des enfants uniques par exemple, ou alors, on en parle souvent dans cette émission, des personnes qui sont hypersensibles, très sensibles, qui cherchent peut-être à se protéger des autres qui peuvent les agresser d'une certaine façon?
Disons, ce qui concerne les enfants uniques, pas forcément, parce que justement, il y a aussi là où ce besoin des autres d'être en lien. Donc, un enfant unique plutôt bien élevé aura besoin des autres.
Ce ne sera pas toujours un solitaire à l'âge adulte.
Au contrepartie, des enfants de familles très, très nombreuses qui ont été élevés dans l'amour, mais tout le temps avec les uns sur les autres, parfois ils n'en peuvent plus. Je parlais vraiment même en termes de clinique, c'est ce que je peux voir. Ce besoin d'être seul, de pouvoir se sentir, exister aussi indépendamment des autres. Donc là, c'est vraiment au cas par cas, on ne peut pas trop généraliser.
Et comment on fait pour se sortir de la solitude quand elle nous fait souffrir? Parce que ça semble facile à faire, hein, comme ça. Mais
on se dit, tiens, on va voir les autres, quoi.
Oui, c'est ça.
Pas toujours aussi
franchement,
facile.
Franchement, faire le premier pas vers l'autre, sortir de ses habitudes, c'est un véritable effort pour certains. Alors, qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller à ceux qui nous écoutent actuellement?
Alors, moi, je ne vais pas faire de prosélytisme pour la psychothérapie ou la psychanalyse, mais je me dis, ce sont des espaces aujourd'hui d'intimité qui permettent de se connaître. Et c'est vrai qu'il ne suffit pas de vouloir aller dans le monde pour en avoir les codes. Hein, et qu'on peut avoir besoin de quelqu'un, plutôt envie de sortir de la solitude en s'adressant à quelqu'un, mais cette personne-là ne sera pas du tout posée. Donc, on va être renvoyé encore plus à notre solitude.
Alors, comment on peut faire?
Alors,
il faut se forcer un peu quand même ou pas?
Alors, je pense, se forcer un petit peu, oser ne pas prendre un refus pour une claque. Donc, ça veut dire aussi, malgré tout, qu'on est blessé, c'est blessant un refus, c'est prendre le temps de se réparer plutôt que de prouver qu'on est vraiment malheureux. Ce qui est vrai aussi, c'est que le malheur ou la tristesse, c'est quelque chose en dehors de, d'espace qui vraiment le considère, l'espace thérapeutique, l'espace, tout à l'heure qu'on parlait de cette de association Colette, où là, effectivement, c'est, la douleur ou la souffrance est acceptée. Dans nos sociétés, elle est mal acceptée. Donc aussi, si on est en demande ou en manque, parce qu'on souffre de solitude, on aura plutôt tendance à être rejeté. Donc là encore, je dis, prendre le temps de se connaître et d'accepter éventuellement des refus aussi. Hein.
Très bien. Merci beaucoup, Virginie Méglet, d'avoir été avec nous sur Europe 1 ce matin. Je rappelle votre livre qui aborde notamment cette question de la solitude, Guérir de la peur de l'abandon, paru aux éditions Erol. Julien, on va changer de thématique maintenant.
Mais oui, les bienfaiteurs et les bienfaitrices d'Europe 1 sont là. Deux d'entre elles arrivent en ce moment même dans ce studio. Sophie Braffman va nous faire découvrir des applis cruciales, indispensables si vous aimez rigoler comme nous avec Mélanie.
Bah oui.
Et puis si, comme Mélanie, d'ailleurs, vous avez mal au dos aussi.
En ce moment,
parfois,
ça va, mais les lombaires parfois. Ouais.
Bah justement, c'est peut-être parce que votre dos n'était pas assez musclé jusqu'alors, Mélanie. Eh bien, aucun problème. La coach Anouk Garnier a préparé un programme spécifique pour cela. A tout de suite sur Europe 1.
Bien fait pour vous sur Europe 1.
Très heureuse de vous retrouver ici dans l'émission qui vous veut du bien sur Europe 1. Nous sommes en direct jusqu'à midi et on va tout de suite saluer les bienfaitrices d'Europe 1. D'abord vous, Anouk Garnier, bonjour.
Bonjour les filles, ça va?
Oui, ouais. On va muscler une zone bien spécifique ce matin, c'est quoi?
Oui, on va muscler votre dos. Je vais vous donner des astuces, des exercices, des accessoires, tout ce qu'il faut pour avoir un dos en forme.
Bon, bah c'est parfait, je suis sûre que ça concerne beaucoup de monde ça. Anouk, on vous retrouve dans quelques minutes avec les exos, tout ça pour un dos en pleine forme. Je me tourne d'abord vers vous. Vous, Sophie Braffman, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
On va se poêler avec vous aujourd'hui, c'est ça?
J'espère. Ouais. Sinon, c'est pas le cas, sinon j'aurais perdu mon pari. Ça tombe complètement à plat. Oui, je vais pas vous apporter des applications révolutionnaires, mais je crois que les auditeurs d'Europe 1 et auditrices, bien sûr, d'Europe 1 aussi, aiment bien s'amuser et avoir un peu de légèreté. Surtout qu'on parle tout le temps du Blue Monday, là. C'était le lundi
le plus triste de l'année, tout ça.
Non. On a envie d'apprendre des choses tout en s'amusant. D'ailleurs, comme disait cet adage de grand-mère que j'aime beaucoup, la culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Hein. D'accord avec ça. Mais c'est pas tant un adage de grand-mère que ça, parce qu'est-ce que vous savez qui l'a prononcé cet adage?
Aucune non. idée.
Bah, c'est Françoise Sagan.
Ah,
je vous ai appris un truc aujourd'hui.
Beaucoup de culture.
Bah, vous voyez pas tant que ça, mais en fait j'ai plein de petits savoirs inutiles. Alors, il y a une application qui s'appelle justement les savoirs inutiles. Qu'est-ce que c'est? C'est plein de petits trucs pour briller comme ça dans des dîners en ville ou quand on s'ennuie un peu, qu'on n'a pas grand-chose à dire, mais tout d'un coup on a envie de faire un peu d'esprit. D'accord. Alors on apprend à chaque fois, on apprend de l'histoire, on apprend des chiffres, on apprend plein de petits trucs de la biologie. Il y a même une catégorie inclassable des statistiques, des records, des lois, la société. C'est sympa quand on fait un dîner.
Moi,
hein,
je vais bien essayer.
Je suis sûre que ça va vous plaire. Bon, allez, déjà. Je vous le fais sous forme de jeu.
Allez,
c'est parti. Alors, dans les savoirs inutiles, on commence. C'est un ancien forçat condamné en 1796 pour création de faux documents.
Après Jean plusieurs... Valjean.
Non, après plusieurs évasions, il deviendra le chef de la police judiciaire de l'époque, puis créera la première agence de notation économique de l'histoire. Il a été porté à l'écran par Gérard Depardieu en 2001. Vidocq. Julien, on y était presque. Vidocq. Bon, c'est un peu. Et puis Jean Valjean, je vous rappelle, c'est le 19e hein, normalement.
Oui,
donc c'est un peu.
Pardon.
Allez, c'est pas grave. On continue. On a perdu ce point, mais comme ça, vous le saurez. Donc c'est Vidocq. Quelle chanson pour enfants fait référence à l'interdiction des maisons closes par Louis IX, créée en 1753 par Madame de Pompadour? Cette comptine dénonce le retour de ce décret qui interdit à nouveau les maisons de prostitution pendant une partie du règne de Louis XIV. La chanson a servi de signal d'intervalle à l'ORTF, devenue Radio France. Entre 40 et 95. Cette comptine est la chanson favorite de Claude Debussy. Elle cache un double sens derrière l'invitation à la danse, ne plus aller au bois. Un couplet aurait d'ailleurs été censuré au cours duquel on demandait expressément de couper les lauriers.
Elle l'a fait longue, la définition, on a le temps de réfléchir, mais on trouve toujours pas.
Nous n'irons plus.
Nous n'irons plus.
Oui, au bois, les lauriers sont coupés. Que voilà. On chante super bien, les filles. Merci beaucoup. Donc il s'agit de la fameuse comptine. Nous n'irons plus au bois. Et vous savez pourquoi? Alors c'est là où justement le savoir inutile est très intéressant. Pourquoi on raconte ça? Nous n'irons plus au bois. Il y a un double sens dans le refrain qui invite à défaut. En fait, le bois, c'était les maisons closes parce qu'il y avait un laurier pour symboliser les maisons closes. Donc quand on dit nous n'irons plus au bois, sous-entendu bois de la porte, le bois,
les lauriers sont coupés.
Les lauriers sont coupés, exactement, les maisons closes. Et en fait, là où c'est très coquin, et c'est en fait, ça invite à l'orgie sexuelle. Il y a plus de maisons closes, mais entrez dans la danse,
danser, chanter,
embrasser qui vous voulez. Et là, ça invite à l'orgie. magie.
Hey, on chante ça aux gamins.
Et on chante ça aux gamins, c'est pas fou bien, quand même. Donc maintenant, quand vous chanterez cette chanson à vos enfants, eh bien, vous la verrez sous un autre jour. C'est une chanson, en fait, extrêmement coquine. Alors, dans l'application Savoirs Inutiles, on apprend des choses très intéressantes. Hein. Par exemple, lors de JO de Paris en 1900, les épreuves de natation sont déroulées dans la Seine. Autant vous dire qu'en 2024, ça ne se passera pas. Est-ce que vous savez pourquoi dans la chanson Hey Jude, les Beatles, on commence le refrain de la batterie qu'au troisième couplet? Vous savez pourquoi la batterie n'arrive qu'au troisième couplet?
Parce que Ringo, il n'était pas là.
Il est parti aux toilettes.
C'est vrai?
Mais c'est fou, mais si. Il est parti discrètement aux toilettes.
Ah, en fait... Attendez, c'est là qu'il part aux toilettes?
Non,
là,
voilà, il revient des toilettes. Voilà. Et quand la batterie arrive, et du coup, ils se sont dit, mais on va garder la version comme ça. C'est vachement mignon quand même.
C'est un
comme
truc totalement idiot, mais qu'on est content de savoir.
Et bah, voyez, alors, et contrairement aux apparences, les éléphants ont le nez le plus fin de tous les mammifères. Ça, ça vous plaît aussi?
Oui, c'est pas mal. Vous en avez une autre encore? J'aime
voilà,
bien.
Voilà, ouais, c'est sympa.
Allez, une autre appli alors, peut-être parce qu'on n'a plus beaucoup de temps.
Alors, on fait très très vite. Mm-hmm. Alors ça, je trouve que c'est une super appli inutile, mais vachement sympa. C'est une application étrangère qui s'appelle A French Kiss. Mm-hmm. C'est très pratique pour les adolescents. Vous embrassez votre téléphone. Attention à ne pas baver. Ouais, c'est bien dégueulasse. Je savais que ça allait vous plaire. Il faut faire attention à ne pas trop baver, mais ça permet de définir votre compétence en façon de bécotage.
Non.
Sinon, on a Pimple Popper.
Tout le monde a fait semblant d'embrasser un miroir. Là, on embrasse son téléphone.
Eh ben, exactement. Le téléphone.
Mais après, on le touche son téléphone.
Et ça, c'est une appli à faire en solo, dans des moments de solitude.
Mais
hein.
C'est exactement. C'est ça. Alors, autre appli dans les moments de solitude, un jeu pour s'éclater les boutons. Ça va vous plaire, je le savais. C'est Pimple Popper. Donc, on a des petites applications comme ça. Vraiment, ça ne sert à rien. Mais
c'est
dans
génial,
un petit moment de solitude, on est content quand on est chez soi.
Oh, merci, génial. Sophie, j'adore. Vraiment, vous nous aviez promis qu'on allait rigoler. Et ben, c'est pari tenu. Allez, on va chausser les baskets et on passe au sport avec Anouk Garnier. Oui. Et le dos. Et on a déjà plein de dos avec Mélanie. Des conseils, justement, pour votre spécial dos. On vous écoute.
Oui, alors. Renforcer son dos, vous le savez, c'est primordial pour être en bonne santé.
Bien
pour différentes choses. Déjà, pour protéger votre colonne vertébrale dans le mouvement. Parce que quand vous bougez, c'est quand même important qu'il y ait cette protection, que ça soit solide autour de votre colonne.
Il faut que le tronc soit costaud. Quoi.
Exactement. Mmh. Ensuite, il y a besoin aussi d'avoir une bonne posture. Plus vous allez avoir un dos fort, plus votre posture sera redressée et plus vous pourrez la tenir longtemps. C'est important aussi pour l'histoire de la respiration. Si vous êtes fermé comme ça, vous n'allez pas pouvoir bien respirer. Donc, ouvrir la cage thoracique, avoir une bonne posture. Et vous avez aussi quelque chose autour de la santé des épaules. Est-ce que vous saviez que si vos omoplates bougent dans tous les sens, vous pouvez vous blesser les épaules dans les mouvements? Ouais, en général, c'est pas terrible.
Vous le saviez, vous, Julia?
Pas du tout.
Je savais. Non, et en fait, si vos omoplates, vous êtes capable de mieux les fixer, eh bien, déjà, posture bien et en plus, les épaules en bonne santé. Donc, ça, c'est très bien.
Allez, quels exercices on peut faire pour travailler les muscles du dos, justement?
Très simple. Il va falloir tirer des choses, tirer des charges. Voilà, retenez vraiment ça. Dès que vous allez tirer une charge, donc soit de manière horizontale, donc de devant vous jusqu'à vous,
vers
ou
la poitrine,
alors,
quoi, c'est
voilà,
ça,
ouais. Vers la poitrine, bras tendu, j'amène quelque chose à moi, ou j'amène mon propre poids de corps, ou alors vertical, c'est-à-dire que j'ai quelque chose qui est
en
au-dessus
haut,
de ma tête, je tends mes bras, je viens la chercher et je reviens.
D'accord.
Donc ça, voilà. Tirage horizontal ou vertical.
D'accord. On peut le faire sur des machines de muscu, évidemment, mais si on n'a pas de machine de muscu, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que je peux tirer Julia Vignali?
Vous pouvez tirer Julia. Oui, allez-y.
J'ai un petit 40 kilos.
Vous l'accrochez à une petite corde et vous
la
tirez comme
voilà,
ça
okay.
passe. Non, vous avez l'élastique, j'en avais déjà parlé, mais qui est un excellent outil
pour
faire
des tirages. C'est vraiment un magique sportif,
ouais,
ce truc-là.
Bien.
C'est pas cher. Et
vous
ça...
pouvez aussi, votre propre poids de corps va être intéressant sur certains tirages, on va en parler juste après. Et des petites haltères ou alors des bouteilles d'eau, des packs d'eau. Vos enfants, non je rigole.
Comment ça peser les
tout ce qui pèse à peu près un peu plus de 5 kilos quoi.
Ouais, même un peu moins, c'est pas grave, mais voilà, même à poids de corps, on peut chercher à prendre une serviette, mettre de la tension et la tirer vers nous.
Est-ce que vous pouvez nous donner vos exercices?
Alors, j'ai un exercice donc de tirage dont je vous ai parlé horizontal. Mm-hmm. En salle de muscu, la machine s'appelle tirage horizontal. Donc vous pouvez pas vous tromper. Vous êtes assis en fait sur la machine, vous accrochez une poignée, vous voyez, c'est un peu comme un rameur mais sans bouger ses jambes.
Et ça c'est bien pour le dos.
Et ça c'est très bien, vous pouvez le faire avec l'élastique. Moi je l'appelle le tirage calèche parce que j'ai l'impression de calèche, je trouve ça rigolo.
Ah bah oui,
on va mettre les pieds, voilà, l'élastique autour des pieds, on tend ses bras, on tire l'élastique vers soi et on tend les bras, on est nickel.
Combien de répétitions?
Alors on va faire entre 5 et 10 répétitions suivant la résistance de votre élastique ou la charge si vous êtes sur une machine. Et puis il va falloir augmenter la charge petit à petit si on veut développer sa force.
Et ça il faut le faire tous les combien de temps d'ailleurs? Parce que ok, je vais renforcer
mon dos, mais il faut, j'imagine qu'il faut plusieurs semaines pour que ça fonctionne.
Ouais, alors oui, bien
toutes
sûr.
Les semaines,
moi,
j'imagine qu'il faut y retourner.
Je dirais qu'il faut faire deux fois au moins dans la semaine. Et après, vous
mais
n'êtes
quoi,
pas
cinq
obligé.
Minutes on peut faire 5 minutes
ça,
de dos
vous,
et après on passe aux jambes.
Voilà, vous pouvez faire un exercice, mais essayez de mettre un exercice de tirage à chacune de vos séances. Il y a un autre tirage très intéressant,
c'est le vertical.
Voilà. La traction, ça vous parle? C'est mon exercice préféré. Il est souvent boudé, malheureusement, mais ça montre une force du dos. On est capable de tirer son propre poids de corps. Et j'ai des astuces pour vous. J'y vois déjà difficile, je suis d'accord.
Bah, il est lourd, mon poids de corps.
Vous pouvez simplement vous faire assister sur cette traction. L'élastique, encore une fois, va être magique puisque vous pouvez l'accrocher à la barre et mettre les pieds dedans. Il va vous aider, il va vous assister.
C'est un peu de la triche, ça, non?
Non, c'est de l'assistance. C'est pas pareil. Voilà.
C'est comme le vélo électrique,
et
tu pédales quand même.
Vous avez aussi des machines, en fait, qui va vous soulager un petit peu de poids de corps et vous aider à faire votre
traction.
Mais
ça, c'est pas grave. Si on est un peu aidé en traction,
mais
c'est vrai.
Mais pas du tout. Mieux vaut le faire, en fait, que pas du tout.
Voilà. On est d'accord que plus on est mince, plus c'est facile de se tracter ou ça n'a rien à voir?
Alors non, ça n'a rien à voir. Ça va dépendre de votre force, en fait. Moi, je suis relativement lourde quand même pour une femme, mais en fait, je fais beaucoup de traction. C'est une question d'entraînement et de force.
Et vous soulevez et tout?
Oui, je vais faire des dizaines de tractions.
Vous vous soulevez, vous, Sophie Braffman?
Pas très bien, mais je voulais savoir.
Vous vous soulevez, vous, Sophie Braffman?
Est-ce que la planche aussi, c'est bien, non?
Alors la planche, ça va renforcer le gainage, mais ça va pas renforcer le dos réellement. Donc voilà, pensez au tirage.
Et dites-moi, il y a pas, je sais pas, moyen de se faire mal?
Mais oui, parce que je vous dis que pour avoir eu des gros problèmes de dos, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. J'ai toujours peur de toucher cette zone-là.
Exact, on a peur un petit peu de se blesser, on n'ose pas trop soulever les charges, donc je vais vous donner trois points clés pour bien le faire. Alors, deux choses autour de votre buste, on disait un buste fort tout à l'heure, il faut avoir la colonne vertébrale le plus alignée possible. Donc on se redresse,
on se tient bien droit,
et on garde vraiment cette posture du dos bien droite pendant tout l'exercice, parce que souvent on a tendance à relâcher en fin d'exercice. La deuxième chose, le buste, il doit être fixe, c'est-à-dire que je vais essayer de pas bouger d'avant en arrière, mais je vais le garder fixe aussi pendant tout l'exercice. Ça permet de mieux cibler en fait les muscles de votre dos. Et la dernière chose, c'est simplement de contrôler la charge jusqu'au bout. Souvent
on lâche pas d'un coup.
On lâche pas, ou alors on se laisse aller avec la charge à la fin de l'exercice, et là c'est pas terrible. Donc de garder vraiment le contrôle jusqu'à avoir les bras bien tendus et bien finir sa série en sécurité.
Bon, bah merci beaucoup, Anouk, pour les conseils sportifs. C'était bien très clair. On sent qu'on a un tronc bien plus solide, hein, Julia. Vous ne sentez pas qu'on est bien ancré là dans nos chaises? Non, pas du tout.
Ouais,
on est bien ancré, Mélanie. Bon, allez, on sera de retour demain à la même heure dès 11h sur Europe 1 dans Bienfait pour vous. Julia, on parlera de quoi demain?
Je pressens. Il y a comme quelque chose qui me dit que vous allez adorer, Mélanie, et vous aussi, auditeurs d'Europe 1. On va parler de pressentiment, de sixième sens, de présage. Vous savez, on a toute cette petite voix qui nous parle au moment de prendre une décision, par exemple. Eh bien, on va se demander précisément comment fonctionne l'intuition et surtout s'il faut toujours la suivre.
Allez, pour le moment, j'ai l'intuition qu'on va laisser la place à l'info sur Europe 1, car à suivre, c'est Europe Midi avec vous, Romain Desarbres. Bonjour, quel est le menu dans Europe Midi?
Bonjour Mélanie, dans Europe Midi, on va beaucoup parler de la réforme des retraites. Hein. Le ministre du Travail est en train de parler. On va y revenir, on va aller à l'Élysée dans un instant, retrouver Jacques Seret. On va parler également des artisans boulangers qui souffrent en ce moment. Et puis on va parler aussi du petit pousset de la Coupe de France, Pays de Cassel, qui reçoit le PSG ce soir. Ça va être la fête au Stade Bollaert. On sera en direct avec le directeur sportif du club Pays de Cassel. Voilà, joli programme.
Hein. Oui, on sera à l'écoute, évidemment. Merci beaucoup Romain, à tout de suite.
À tout de suite.